Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour vous présenter cette édition d'Escale. Cette semaine, nous recevons Pierre Lapac, représentant du Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre de l'ONUDC, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, bureau basé à Dakar. Pierre Lapac revient sur les avancées constatées récemment dans la lutte contre le trafic, le crime organisé et le terrorisme dans la région du Sahel.
Alors, pour nous, l'ONUDC, en tant que gardien des conventions sur le terrorisme, entre autres, on travaille sur les actes terroristes. Qu'est-ce que c'est qu'un acte terroriste? Donc, il y a des conditions légales qui permettent d'identifier un acte terroriste. Bon, c'est un acte qui touche des populations ou des institutions et qui est commis à des fins de revendication ou pour une cause, etc., etc. Donc, c'est-à-dire, on essaie de toucher en masse. D'accord, pour créer une distorsion, pour créer un impact dans les populations. D'accord. Alors, il y a différents types de terrorisme, il y a près d'une vingtaine de conventions internationales. Et donc, nous sommes les gardiens. C'est sur la base de ces conventions internationales que nous sommes amenés à travailler. Alors, la thématique de est-ce que vous êtes un mouvement sécessionniste ou pas sécessionniste, c'est quel type d'acte vous commettez au titre de vos revendications. Et c'est sur cette base-là qu'on détermine si ce sont des groupes terroristes ou pas des groupes terroristes. Au Nord-Mali, parmi la dizaine ou la vingtaine de groupes qui existaient, certains ont signé un accord de paix, d'autres n'ont pas signé d'accord de paix. Donc il y a des dynamiques internes qui existent et qui doivent être prises en considération. Donc si vous voulez, le but est de déstabiliser une zone, ou bien à des fins de sécession, ou bien aussi à des fins économiques. Il ne faut pas se voiler la face, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous contrôlez un territoire, vous êtes les gardiens d'une porte qui permet à d'autres groupes, à d'autres personnes de passer et de faire passer de la contrebande, du trafic. Et donc c'est à ce titre-là que nous intervenons, nous, à la fois sur l'angle purement terroriste et aussi sur l'angle trafic illicite.
Pourquoi lier ces trois domaines, lutte contre le terrorisme, trafic de drogue et crime organisé? Quel rapport?
Le rapport, il est au niveau du financement. Les groupes terroristes, maintenant, ont besoin de plus en plus d'argent parce que cette guerre asymétrique qu'ils livrent est une guerre qui coûte énormément. D'abord, ils perdent des effectifs, les combattants sont tués. Auparavant, beaucoup de combattants rejoignaient la cause, je dirais, pro bono. Là, maintenant, certains sont payés. Donc être combattant, ça devient un travail à temps plein, si vous voulez, comme un autre. Donc il faut payer, donc c'est de l'argent. Il faut toute la logistique, l'essence, les armes, la munition, les nourritures. Et ce sont en plus des cellules qui sont complètement disséminées dans une immense cité sahélienne. Donc si vous voulez, il y a toute logistique pour pouvoir les alimenter. Tout ça, ça coûte pas mal d'argent. Et donc il y a des besoins de financement de ces groupes terroristes. Et les groupes criminels qui, eux, importent de la drogue ou fabriquent de la drogue, par exemple quand on parle de méthamphétamine ou importent de la drogue quand on parle de cocaïne, ces groupes-là ont besoin de routes. Quelles sont les routes entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe, puisque le marché, si vous voulez, logique de l'Afrique de l'Ouest, c'est l'Europe, de l'Ouest principalement. Ce sont des routes maritimes, ce sont des routes aériennes et ce sont des routes terrestres. Pour ce qui est de la maritime aérienne, le Sahel n'est pas concerné. Mais à partir du moment où on parle d'une route terrestre, il faut passer sur des territoires qui sont plus ou moins entre les mains de groupes terroristes et qui sont contrôlés. Et donc, en tant que tel, la jonction se fait. Elle se fait, elle est naturelle, elle est économique. Et donc, c'est pour ça qu'il est important d'être le plus proactif possible pour lutter contre ces fléaux.
Félicitez donc de progrès sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples?
Oui, alors il y a 4-5 ans de ça, il n'y avait très peu d'investigations. Ou alors il y avait ce que nous appelons des saisies ou des interpellations sèches. C'est-à-dire que des gens étaient arrêtés, passeurs de drogue ou transportant des armes, etc., etc. Mais l'enquête judiciaire ne continue pas. C'est-à-dire qu'on s'arrêtait à l'enquête policière. C'est parce que le dossier était mal monté ou parce que les preuves étaient mal collectées, etc. Donc il n'y avait pas vraiment d'enquête judiciaire et donc très souvent ces gens étaient relâchés. Là, on s'aperçoit que de plus en plus, vous avez des groupes criminels, que ce soit au Mali, au Niger, ou des groupes terroristes qui sont démantelés. Des trafiquants d'êtres humains, des trafiquants de migrants qui sont régulièrement arrêtés. Il y a même des investigations sur des cas de blanchiment d'avoirs criminels, voire sur du financement du terrorisme, qui sont des investigations très sophistiquées, très techniques. Donc, grâce à la formation que la communauté internationale, et l'ONUDC en particulier, mais aussi la communauté internationale, a apportée à ces États, nous avons vu des signes positifs. Un autre exemple, si vous voulez, au Niger, nous travaillons beaucoup avec le ministère de la Justice pour les aider à traiter leur passif de gens qui ont été arrêtés dans le cadre d'opérations de police ou militaires. Mais, si vous voulez, on a tendance à ratisser un petit peu large. Donc, il y a des gens qui sont innocents et qui se retrouvent en prison.
Vous avez porté assistance à quel quelques 600 personnes.
Voilà, on a aidé la justice nigérienne à traiter plus rapidement 600 cas, de façon à ce que tout simplement la justice passe, que les criminels, quel que soit le crime, le terrorisme en fait partie, restent en prison et que les innocents sortent. Parce que dans une région où il y a déjà où la situation est très fluide, si vous arrêtez des innocents et qu'ils savent qu'ils sont innocents et qu'ils vont en prison, ils vont se radicaliser naturellement. Et en fait, au moment où vous allez les libérer, vous aurez des gens qui seront passés de l'autre côté de la barrière. Donc l'idée, c'est que la justice passe et qu'elle dise qui a fait quoi dans le cas du respect des droits de défense, des droits de l'homme, etc. Ce qui est normal, hein, la justice. Et donc notre but, c'était de travailler, on a travaillé avec nos collègues de UN Volunteer pour justement arriver à aider la justice nigériane à traiter plus de 600 cas. Il y a 250 cas, c'était il y a 3 mois, là maintenant on est à 600. C'est l'effet boule de neige qui fait que les choses avancent de plus en plus. Et ça, ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à montrer à la population que la justice passe sereinement. Et c'est ce que la population exige, et je pèse le mot « exiger », c'est ce qu'elle veut.
C'est pour qu'ils se reconnaissent dans leur système judiciaire.
Bien sûr.
Qu'ils aient confiance.
La crédibilité d'un État passe, entre autres, bien sûr, par les services de base, l'éducation, les hôpitaux, etc. Mais enfin, bon, l'ONUDC ne s'occupe pas particulièrement de ça. Nous occupons de tout ce qui est, je dirais, le domaine criminel. Eh bien, c'est la justice. Il faut que les gens aient confiance dans leur justice. Il faut qu'ils veuillent y croire. On ne peut pas forcer les gens à aimer et à croire en leur justice. On ne peut le faire qu'à partir du moment où on a une justice qui fonctionne, même si ce n'est pas idéal, mais qu'elle fonctionne et elle se récrédibilise d'elle-même.
C'est quand même compliqué. Au fur et à mesure que les populations vont avoir confiance en la justice et vont faire recours à la justice, il y aura plus de volume. Et aussi, avoir recours à la justice dans des situations comme on voit au Mali, par exemple, ou face à des actes terroristes, c'est prendre un risque. Donc, comment apporter une protection à ces victimes? Comment apporter une protection à la population et répondre relativement rapidement pour qu'ils soient justement moins exposés?
Alors, je dirais, j'espère qu'il y aura de plus en plus de demandes auprès de la justice des pays du Sahel. Ça voudra dire que cette justice est crédible et que les gens veulent avoir confiance en elle. Donc ça, je pense que c'est vraiment le but ultime. On n'en est pas encore là. Et puis, il faut aussi savoir que quand vous êtes au Nord Mali ou au Nord Niger, le tribunal le plus proche peut se trouver à 1000 km de chez vous. Donc aussi, il y a des données géographiques qui doivent être prises en considération. Mais enfin, voilà, le chemin, c'est celui-là. Alors, c'est sûr qu'il y a des risques de faire appel à la justice, des risques. Les communautés ne veulent plus du terrorisme, ne veulent plus de cette criminalité organisée transnationale, ne veulent plus de cette collusion entre les deux ou qui crée ce phénomène malsain au sein de la zone sahélienne. Donc les populations veulent que les choses changent, elles sont prêtes à prendre un certain nombre de risques. Alors évidemment, les gens ne sont pas suicidaires, on est bien d'accord. Mais elles sont prêtes à prendre un certain nombre de risques. Et je crois qu'aussi, là, il faut que non seulement la justice, mais que la police, que la gendarmerie, que les services de l'État sécuritaires puissent justement assurer une protection à la population dans les meilleures conditions possibles ou dans les moins mauvaises conditions possibles. Il ne faut pas non plus être trop idéaliste et penser que tout peut se régler durant la nuit. Mais je crois qu'il y a une démarche positive qui va prendre certainement une dizaine d'années. Je veux dire, ne soyons pas dupes. Hein. Je veux dire, rien ne se fera de manière hyper rapide. Mais l'important, c'est de se mettre sur la bonne voie et de continuer à avancer sur cette voie. Avec des moments où peut-être les choses vont ralentir un moment, ou d'autres ça va accélérer, mais il est important qu'on reste sur une dynamique positive. Et je crois qu'au cours des dernières années, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on voit, c'est les effets positifs que ce que la communauté internationale peut apporter, l'ONUDC y contribue bien sûr, pour soutenir les pays du G5. Et je crois que ce qui est le plus important au-dessus de tout, c'est l'engagement politique des États à avancer dans cette direction. Sans eux, on ne peut rien faire, on ne peut pas forcer les gens à aimer les États. Et donc pour nous, c'est vraiment un partenariat, la population, les États et nous.
Au Mali, on a vu quelques cas phares pour lesquels il y a eu un procès, par exemple au commissaire de police de Gao, qui a reçu une peine de 10 ans l'année dernière. Et justement, ça a entraîné énormément de plaintes de la part de différentes victimes à Gao, qui voient entre les changements de quel cour est responsable, de quelle plainte et comment on peut aller de l'avant de la procédure, se voient justement dans une position assez vulnérable et en attente. Alors que dites-vous à ces populations pour qu'elles tiennent bon et qu'elles aient courage, qu'elles maintiennent la foi dans le système de justice malien?
Je crois que la justice, c'est quelque chose qui doit se jouer à deux, c'est-à-dire c'est à la fois l'État, les institutions, mais c'est aussi la population. Et c'est un mariage qui peut être d'amour ou de raison, mais qui dans tous les cas doit avancer la main dans la main. Il faut qu'il y ait un respect mutuel. Donc les populations sont inquiètes, je le comprends, je le respecte, mais je crois qu'il est important que la société civile, que les populations continuent à envoyer des messages positifs avec des exigences claires vis-à-vis de leurs gouvernements, locaux ou nationaux, en exprimant de manière pacifique, mais néanmoins ferme, leurs attentes. Et ce sont des attentes légitimes qui doivent donc être prises en considération. Donc Rome ne s'est pas fait en un jour et la justice au Mali ou au Niger ou dans d'autres pays ne changera pas en l'espace de quelques heures. Il faudra 10 ans pour changer ça. Mais je crois que ces populations doivent rester sur une démarche ferme, courtoise, engagée, respectueuse des institutions, parce que la justice doit être respectée. Mais quand il y a des dysfonctionnements, ils doivent être dénoncés.
Vous avez mentionné le Niger, un appui donc pour accélérer plus de 600 cas de détenus, mais aussi il y aurait 100 d'enfants qui seraient dans un processus de réforme et de réintégration. Comment est-ce que vous faites justement pour réformer des enfants ?
On est dans l'éducation, il faut éviter la sanction le plus possible. Ça ne sert à rien d'envoyer des enfants en prison, surtout si on l'envoie en prison où ils vont rencontrer des terroristes. Donc on est dans des processus d'éducation, de rééducation, de recrédibilisation des institutions, de fonctionnement avec les familles, de fonctionnement avec les communautés, pour qu'on ne soit pas dans cette approche où on blâme et on écarte, mais qu'on soit plutôt dans des approches de réintégration, de réacceptation de ces gamins, parce que souvent ce sont des jeunes qui peuvent avoir 13, 15 ans et qui ont été abandonnés dans les mains de groupes qui les ont phagocytés. Évidemment, il y a des milliers de causes, mais si on veut simplifier quelles sont les deux causes de la radicalisation, elles sont à la fois hyper compliquées et hyper simples. À mon humble avis, c'est un haut niveau de frustration. Quelle que soit cette frustration peut être politique, économique, sociale, ethnique, et ça peut être un mélange de plusieurs types de frustrations, on est bien d'accord, et un bas niveau d'éducation. C'est-à-dire quand vous n'êtes pas capable de raisonner par vous-même, quand vous n'êtes pas capable de trier le bon grain de livret, et automatiquement, vous allez écouter celui qui va venir susurrer à votre oreille des messages qui vont en fait alimenter votre niveau de frustration. Donc à partir du moment où on a un haut niveau de frustration, un bas niveau d'éducation, on est ouvert à tous les types de prosélytisme. Mais c'est important que ces gamins, même s'ils ont commis des atrocités, même s'ils ont posé des bombes, même s'ils ont été au contact de groupes criminels et de groupes terroristes, puissent essayer de revenir dans le droit chemin. Alors c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Donc c'est des partenariats qu'on a montés avec toutes les structures qui s'occupent des droits de l'homme, des droits des enfants, etc., pour essayer de re-sociabiliser ces enfants qui étaient un petit peu, voire même beaucoup perdus. Gagani, garabundai ganyote, dabire, haibinom mamete, gagani, garabundai ganyote.
Quelles sont les priorités pour l'ONUDC dans cette lutte contre le terrorisme, contre le trafic et le crime organisé dans la région?
Alors, ce qu'il faut avant toute chose, c'est casser cette approche par silo. Sachant qu'en face de nous, les groupes criminels, eux, se moquent complètement du type de trafic. Ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Et donc, il faut premièrement arriver à avoir une approche qui soit la plus globale possible, transversale, quel que soit le type de crime, parce que qu'est-ce que c'est que le trafic ou la contrebande? C'est transporter une marchandise illicite d'un point A à un point B sans se faire prendre. Et ça va impliquer de la corruption, ça va impliquer... Donc, si vous voulez, tous les types de crimes, y compris le terrorisme, qui est à la fois profiteur et facilitateur. Quand on contrôle un territoire et qu'on l'ouvre aux trafiquants, on est facilitateur et aussi on est profiteur parce qu'on va toucher de l'argent de ce passage. Donc, casser les silos. Donc, avoir une approche qui soit complètement transversale. D'où l'intérêt des pôles judiciaires qui ont, eux, une approche transversale de la criminalité au sens... Faire de la coopération internationale, que ce soit en matière police et puis justice. C'est-à-dire qu'on combat des réseaux par des réseaux. Donc, on ne réglera pas le problème du terrorisme dans le Sahel dans les 6 mois ou dans l'année à venir. Ce serait complètement utopique de le croire. Il est important d'avoir l'engagement politique, les bonnes institutions et les bonnes formations. Alors le rôle de l'ONUDC, et je vous dis, c'est de travailler aux côtés des États pour justement leur donner les moyens de leur politique. C'est pas tout de dire nous voulons lutter contre le terrorisme, nous voulons lutter contre la criminalité organisée transnationale et de rester comme ça en attente. Donc ce qui est important, c'est de dire ok, eh ben écoutez, on le fait ensemble, on est là pour vous aider, on est là pour aider les populations, vos populations, et c'est ce que veulent aussi les gouvernements, pour qu'ensemble, on arrive à limiter cet effet dévastateur dans une région qui n'aspire qu'à la paix et la sécurité.
Et c'est avec Pierre Lapacq que se termine notre édition d'Escale consacrée à la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et le trafic dans la région du Sahel. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet et sur les médias sociaux les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien de Nuinfo. Merci de votre fidélité. Rendez-vous à la semaine prochaine.